VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par la course à la Maison-Blanche. Selon plusieurs médias américains, la candidate démocrate présumée à la présidence, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, devrait annoncer aujourd'hui son colistier pour la vice-présidence. Et ce, au lendemain de la clôture de la convention du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio. Dans son discours d'acceptation de l'investiture républicaine comme candidat au présidentiel de novembre, le milliardaire Donald Trump a engagé hier un virage sécuritaire dans la campagne électorale pour tenter de remonter son retard face à Hillary Clinton, associé au bilan des années Obama. Le milliardaire new-yorkais de 70 ans a présenté son programme sans fausse note ni dérapage, ce qui a tranché avec l'amateurisme occasionnel et la désunion ayant conduit à maintes polémiques et incidents à la Convention républicaine pendant toute la semaine. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Cleveland, Idrissa Sedoudia.
Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination.
Donald Trump, disant aux délégués à la convention du Parti républicain qu'il acceptait avec humilité et gratitude leur nomination pour la présidence des États-Unis. Il a ensuite prononcé un discours axé sur la sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis en se fondant sur de récentes attaques terroristes et actes de violence.
I have a message for all of you.
J'ai un message pour vous tous. La criminalité et la violence qui affligent aujourd'hui notre pays prendront bientôt fin. À partir du 20 janvier 2017, la sécurité sera restaurée. Monsieur Trump a ensuite cité des statistiques montrant, selon lui, la détérioration de la situation sécuritaire à travers le pays et il s'est autoproclamé le candidat de la loi et de l'ordre. Il a parlé d'une augmentation de 17% des homicides dans les 50 plus grandes villes des États-Unis et une augmentation de presque 50% du nombre de membres des forces de l'ordre tués par rapport à l'année dernière. Il a cité le meurtre de policiers à Dallas, Baton Rouge et dans d'autres parties du pays, ainsi que les actes terroristes à Orlando et San Bernardino, contre le marathon de Boston et un centre de recrutement de l'armée à Chattanooga, dans le Tennessee. Donald Trump a de nouveau dénoncé l'immigration illégale, soulignant qu'environ 180 000 clandestins avec des antécédents criminels, dont l'expulsion a été ordonnée, sillonnent en toute liberté le pays pour menacer des citoyens pacifiques. Il va construire son mur à la frontière, selon lui. En conclusion, le candidat républicain a encore promis:
We will make America proud again.
Nous restituerons à l'Amérique sa fierté, nous restituerons à l'Amérique sa sécurité et nous restituerons à l'Amérique sa grandeur.
God bless you and good night.
C'était Idrissa Sedoudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Merci Idrissa Sedoudia. On passe maintenant à l'Afrique. Au Mali, calme précaire à Kidal dans le nord du pays. Théâtre de violents combats hier entre des éléments du groupe d'autodéfense Gatia de la coalition pro-gouvernementale de la plateforme et des hommes du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA, qui fait partie de la CMA, l'ex-rébellion dominante Touareg. Pour une analyse de la situation, Idriss Fall a joint hier à Kidal Amberi Agrissa, un notable Touareg et responsable au sein de la CMA.
Il y avait une tension, des tensions qui grandissaient, qui évoluaient de mal en pis. Il y a deux nuits, il y a un élément de la CMA qui a été abattu par des éléments d'Atia. Ça a fait monter la tension. On pensait qu'on était sur la voie de l'apaisement. Tout d'un coup, dans cet après-midi, des tirs ont éclaté dans la ville. Au moment où vous me parlez, les combats n'ont pas cessé, même si l'intensité des tirs a baissé.
Al-Gabasak Intalla et le général Gambou avaient conclu un accord dimanche dernier à Niamey, non?
Oui, Al-Gabas et d'autres compagnons venaient juste de nous faire le compte-rendu de la réunion de Niamey. On venait de cette réunion-là. Quelques temps après, les tirs ont éclaté dans la ville.
Est-ce que ça signifie que cet accord il est devenu caduque ou bien?
Bon, quand il y a des kilomètres comme ça pendant près de 2 heures de temps, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut valoir encore un tel accord.
Ambéry Agrissa, un notable Touareg et responsable au sein de la CMA à Kidal au Mali. En Côte d'Ivoire, un mort et une dizaine de blessés par balle aujourd'hui lors d'une manifestation violente contre la hausse des tarifs de l'électricité à Bouaké dans le centre du pays. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Un jeune homme âgé de 29 ans a reçu une balle au ventre lors d'affrontements avec les forces de l'ordre et est décédé. A déclaré ce journaliste. Au moins une dizaine de blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire. Ils ont reçu des blessures par balle, a déclaré à l'AFP une source de ce centre hospitalier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a exhorté son rival, le vice-président Riek Machar, à rentrer dans la capitale Djouba qu'il avait fui après de violents combats entre leurs troupes respectives. Objectif de cet appel, relancer le processus de paix, John Lyndon.
J'appelle Riek Machar à rentrer à Djouba pour que nous puissions poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Comme vous le savez, cet accord a besoin de nous deux pour être appliqué, a déclaré Salva Kiir dans un communiqué lu à la presse. Il a répété être à 100% déterminé à assurer la sécurité de Riek Machar à Djouba et a dit attendre une réponse dans les 48 heures. Riek Machar a quitté Djouba après les combats meurtriers qui ont opposé du 8 au 11 juillet ses troupes à celles de Salva Kiir. Ces violences ont fait au moins 300 morts et ont mis en péril le fragile accord de paix conclu en août 2015 pour mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013. Avec cet appel, le président Salva Kiir paraît déterminé à capitaliser sur l'absence de Riek Machar et sur les fissures qui ont commencé à apparaître dans les rangs de l'ex-chef rebelle.
À New York, les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont commencé le long et laborieux processus de sélection du successeur de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Les détails avec Orzuma Compaoré.
Ce premier vote à huis clos et à bulletin secret sera suivi de nombreux autres pour départager 12 candidats, dont 6 femmes et 6 hommes. Parmi les figures de proue, la néo-zélandaise Hélène Clark, Susana Malcora, ministre argentine des Affaires étrangères, l'ex-président slovène Danilo Turk et le portugais Antonio Guterres, ancien patron du HCR. L'ambassadrice américaine Samantha Power a dressé un portrait robot parlant de quelqu'un doté de grandes qualités de dirigeant, d'une grande compétence de gestionnaire, attaché à la justice et aux principes des Nations Unies. L'ambassadeur français François Delattre a comparé cette sélection à celle du pape, la fumée noire et blanche en moins. Son homologue britannique Matthew Rycroft a plaidé pour un secrétaire général fort. Selon lui, il est grand temps pour une femme d'accéder à ce poste, en précisant que l'origine géographique est le critère le moins important. Le suspense peut durer jusqu'en octobre. Le choix final sera entériné par l'Assemblée générale de l'ONU et celui ou celle qui va succéder à Ban Ki-moon prendra fonction en janvier prochain.
Crise migratoire, près de 3000 migrants et réfugiés ont péri depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations qui précise que près de 250 000 autres ont réussi à atteindre l'Europe. Nous retrouvons John Lyndon.
Ce nouveau bilan fait craindre que 2016 soit l'année la plus meurtrière de la crise migratoire qui ébranle l'Europe depuis plusieurs années. L'année dernière, le chiffre de 3 000 morts avait été atteint en octobre et 1 million de migrants étaient alors arrivés en Europe. C'est la première fois dans l'année que l'on atteint aussi tôt le seuil des 3 000 morts. C'est arrivé en septembre 2014 et en octobre 2015, a déclaré à la presse Joël Milman, porte-parole de l'OIM. Que ce chiffre soit atteint avant même la fin du mois de juillet est assez alarmant. Selon Joël Milman, depuis fin mars, une vingtaine de migrants et réfugiés, en grande majorité d'origine subsaharienne, meurent chaque jour en mer. La route la plus dangereuse relie le nord de l'Afrique et plus particulièrement la Libye à l'Italie, avec 3 migrants sur 4 morts cette année en tentant de l'emprunter. L'Italie a accueilli 84 000 migrants sur son territoire depuis le début de l'année, presque le même nombre que l'année dernière à la même période.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.org. www.voaching.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.